Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Bastien!
Salut Gauthier!
Je suis très content de te recevoir. Ça fait longtemps que j'ai reçu un YouTuber sur ce podcast, donc je suis très content de t'avoir parmi nous. Bastien, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît?
Yes, bah déjà merci Gauthier pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Alors tu m'as appelé YouTuber, c'est pas la première chose qui me définit, mais en tout cas ça montre un petit peu aussi de comment je suis vu et connu, donc ça fait plaisir quand même à entendre. Du coup moi je m'appelle Bastien Marico, je suis designer d'interface depuis plus de 10 ans maintenant, et vous me connaissez sûrement sous le nom de Basti UI. J'ai commencé par faire des vidéos YouTube comme tu l'as dit. Et depuis plus d'un an maintenant, pas mal de Twitch aussi. Et les lives, c'est ce qui me définit de plus en plus aussi. Donc, je pense que c'est intéressant d'en parler, surtout dans cette période un peu spéciale. Donc, YouTuber, c'est vrai. Designer, évidemment. Designer d'interface. Mais aussi maintenant, streamer, si on peut dire comme ça.
Chouette. Bon, on en reparlera tout à l'heure parce que je sais que tu écoutes le podcast et donc tu sais ce que je vais te poser comme question. J'aimerais bien savoir comment tu t'es mis à faire du design, comment t'en es venu à être designer?
Ouais, alors moi, je vais faire l'histoire du coup, remonter à l'enfance. J'ai toujours bien aimé faire des choses créatives. Je me suis toujours occupé en faisant des choses justement où il fallait être un peu inventif, un peu décalé, un peu réfléchir en dehors de out of the box, quoi. Et je faisais beaucoup de dessins, beaucoup de musique, etc. Et après mon bac scientifique, moi, j'avais dit à mes parents, voilà, je veux faire du graphisme. C'était assez flou dans ma tête quel métier allait être derrière, mais je disais ça quand même. Je disais ça parce que je bidouillais pas mal sur l'ordinateur, je faisais des petits sites en hébergeant ça sur les FTP free qu'on ouvrait avec des emails par milliers, enfin des trucs comme ça. J'exprimais ma créativité, on va dire, un peu de façon digitale. Mes parents étaient pas trop chauds, pour être tout à fait franc, parce que justement, niveau métier derrière, on savait pas trop ce qu'il y aurait. Et ils m'ont dit, bon, écoute, d'accord, tu peux tenter la seule école gratuite qu'il y avait. Je me rappelle plus le nom à l'époque, hein, mais des milliers de candidatures. Moi, je fais mon truc. Bon, je suis pas pris, tu vois. Donc, j'étais un peu en mode, ah, ok, bon. Et mes parents m'ont dit, bah tiens, tu devrais faire du coup un DUT informatique. Tu fais des trucs sur les sites web. Enfin, tu fais des petits sites web, des trucs, des bidouilles. Ça devrait t'intéresser. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Surtout que le choix numéro 2, c'était de faire... c'était quoi déjà? Je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai même plus le nom. Quand tu fais, quand t'es fort en maths.
Je crois que j'ai écouté dans une de tes interviews où tu parlais de prépa maths.
Ouais, prépa maths. Je sais même plus comment ça s'appelle, mais le truc, l'enfer, quoi. Enfin, voilà. Et donc, c'était soit ça, soit les maths. Donc, moi, j'étais très fort en maths, en plus, paradoxalement, mais ça me disait pas d'en faire. Donc, je suis allé en DUT informatique pendant 2 ans. Et c'était très cool. En vrai, j'ai appris un petit langage de programmation. Pareil, ça reste pour moi quelque chose d'hyper créatif et d'amusant, le développement, donc je l'ai bien pris, on va dire. Par contre, c'était plus toute la partie gestion compta de ce genre de formation qui était horrible pour moi. Et je suis sorti après de ces 2 ans de DUT, toujours à me dire, ben non, mais moi je veux faire du graphisme, hein, c'est sûr. Et voilà. Et donc, pareil, on a regardé un petit peu et j'ai trouvé une formation en licence qui s'appelait CDNL à Gobelins, qui s'appelait Création et Développement Numérique en Ligne. Bon, j'avais trouvé ça, mais aussi d'autres formations, mais c'est celle-là qui me faisait le plus de l'œil, quoi. Et j'ai postulé un peu en mode, allez, c'est parti. Et il s'avère que cette formation, elle prenait à l'époque, alors je sais qu'elle n'existe plus du tout aujourd'hui, hein, ça a changé plusieurs fois, mais elle prenait à l'époque, on va dire, une petite moitié de designers qui savaient un petit peu coder et un peu de développeurs qui étaient un peu créatifs, quoi. C'était un peu ce mood-là, et l'ambiance de la formation, c'était toucher à tout en un an, et travailler, voilà, sur un projet de fin d'études un peu conceptuel qui tournait autour du mobile, des installations numériques, etc. Donc c'était parfait. Et je sais pas par quel miracle ou par quel procédé, mais j'ai réussi à passer les différentes étapes d'entretien et j'ai été pris. Bon, je dis ça parce que je suis passé par pas mal de déceptions aussi dans mes études avant, dans certaines écoles que je voulais faire, dans lesquelles j'étais pas prise, et là j'ai été pris. Et donc, j'ai fait cette école Gobelin pendant un an. C'était une licence, quoi, finalement. Et le truc qui m'a fait devenir designer, c'est pas forcément cette année, mais c'est surtout le fait qu'on avait un module de développement mobile à l'époque. Donc, c'était les débuts de l'objectif C. C'était l'iPhone 3 et tout. Donc là, je découvre ça. Moi, j'avais un téléphone, mais j'étais en mode OK, quoi. Enfin, rien de spécial, quoi. J'étais un utilisateur lambda. Et là, le fait de bosser sur ça et tout, je me suis dit, ouais, mais c'est trop cool. Genre, je peux créer une appli en faisant ça, 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 tac, tac, tac. Et donc, à partir de cette année-là, à partir de ce module de cours-là, bah, j'ai acheté le MacBook, l'iPhone 3GS et tout. Et j'ai commencé à bidouiller, à faire des applis. Et donc, c'est là où je commençais un peu à faire de l'interface. Parce que comme j'étais encore une fois plus en mode développement, je me disais, ah, je vais faire une appli, voilà... Quand tu fais une blague, ça envoie un son. Boum, ah, c'est trop marrant, je l'ai publié. Ah, je vais faire une appli. Quand tu souffles sur le micro, ça fait tourner un moulin à vent, tu vois. Et tu peux débloquer des moulins à vent, plus tu souffles et tout. Tout ça, c'est des choses que j'ai faites, qui existent plus maintenant parce que j'ai arrêté de payer la licence de développeur, mais je m'amusais comme ça, quoi. J'avais fait une appli aussi de buzzer. Quand tu joues avec tes potes en soirée et que, je sais pas, un blind test était, tout le monde répond en même temps. J'avais fait une appli. Bon, c'était à l'époque, à l'ancienne, hein, mais tout le monde mettait son doigt sur l'iPad ou sur l'iPhone. Tu cliquais, ça disait juste quelle personne avait appuyé en premier, quoi. Enfin, je m'amusais à faire des conneries comme ça et j'ai fait de plus en plus d'interfaces, du coup, en faisant mes petites applis comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai aussi fait des applis, notamment des applications pour Skyrock. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique un petit peu. J'avais fait une genre d'appli de fan de l'émission de D-Fool. Si vous voulez en savoir plus sur cette sombre affaire, allez voir sur ma chaîne YouTube, mais en gros... J'avais fait une appli qui reprenait des private jokes de l'émission. Et je me suis fait un peu poursuivre en justice, dirons-nous, par Skyrock, finalement.
Ouais, j'ai vu la vidéo et il y a de quoi se marrer. Et je trouve ça assez marrant, toute la façon dont tu t'es développé là-dessus. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, t'as appris l'UX et la UI sur le tard.
Exactement. Alors du coup, ouais, Skyrock, juste, je reçois encore des commentaires, même encore aujourd'hui, de gars qui disent « C'est trop drôle, j'avais ton appli à l'époque, elle était trop bien, et je te retrouve sur YouTube. » Ça m'a fait rire. Et donc oui, comme tu le dis, j'ai appris complètement sur le tas. Parce qu'en fait, pour caricaturer le truc, à l'époque, il n'y avait pas trop de formation UX, UI, même, je suis même pas sûr qu'on prononçait ces mots-là, tu vois.
Non, je crois pas.
Et donc, quand j'ai fini ma licence à Gobelin, j'étais super content, j'ai dit « Ok, je veux faire ça. » Je cherche un petit peu, il n'y a rien de spécial, ou des trucs justement trop, trop vagues, web designer, non mais moi c'est le mobile que j'aime bien, enfin voilà. Et donc j'ai fini par trouver un stage avec Gobelin, alors je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais on avait le droit à une genre de bourse type Erasmus, mais pour les alternants en fait, et on pouvait aller bosser, je sais plus, un an dans une entreprise européenne. J'envoyais des trucs à Londres, j'envoyais des trucs aux Pays-Bas, j'ai fini par avoir un retour positif d'une boîte à Bruxelles. Je me dis, bon, pas très impressionnant comme expérience à l'étranger, étant lillois, et j'ai dit, bon, bah, au moins j'ai un taf dans une boîte qui fait du mobile. Donc je suis allé là-bas, et c'était une toute petite boîte, il y avait un développeur iOS, un développeur Android, et ils cherchaient justement un concepteur d'appli type voilà, designer, intégrateur d'interface, tu vois, un peu le côté front, mais pour les applis. Et donc, je me suis éclaté dans ça. Et j'ai fait un an avec eux, et c'est là, comme tu le dis, j'ai appris sur le tas, parce qu'en fait, à la fois, je faisais mes interfaces, et à la fois, je les intégrais dans Interface Builder d'iPhone, et du coup, j'étais plus utilisé sur tout ce qui était animation, comportement, gesture et tout, que du code back-office, tu vois. Et donc, j'ai travaillé en tant que développeur front iOS pendant un an là-bas. Et comme tu le dis, j'ai appris sur le tas parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et mon apprentissage ne s'arrête pas là parce qu'après cette année à Bruxelles, j'ai dû rentrer du coup en France. Long périple. Et j'ai continué à chercher du taf un peu dans cet axe-là. Tu vois, je disais, bah, c'est cool de designer, de faire un peu l'intégration et surtout le mobile, j'aime bien. Et j'ai croisé encore une fois par hasard quelqu'un de Capgemini qui m'a dit, bah, attends, tu fais du graphiste, tu fais de l'interface, ok. Ah, dans mon équipe d'innovation à Capgemini, on cherche un... Bon, il disait graphiste, hein, mais je reprends des termes parce qu'à l'époque, voilà. On cherche un graphiste, mais on sait pas si on pourra lui donner du travail toute la semaine, tous les mois. Donc, le fait que tu fasses du code, ça nous rassure parce qu'au pire, on te met sur un projet basique de développeur de grosse société, tu vois. Et donc, moi, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, ok, bah, why not? Ah, c'est bien payé, putain, Capgemini, ok. Enfin, pour un jeune comme moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est un vrai travail de ouf et tout. Donc, j'y vais. C'est mon premier vrai travail. Parce qu'avant, c'était, on va dire, un stage, alternance, machin. Et donc, j'y vais. Et je suis dans une grosse boîte comme Capgemini. Et je suis là, le premier designer, je pense, de là-bas. Et je suis là, ok, c'est parti. Et il commence à me donner des trucs. Je fais mes armes. Ça tâtonne un peu au début. Voilà, on me donne pas trop de trucs à développer, tu vois. En quand même, ils avaient pas mal de graphismes à faire. Et arrivent deux choses. Arrivent plein de projets mobiles, parce que à côté, dans l'open space d'à côté, il y avait les équipes de développeurs mobiles. Ce qui fait qu'ils avaient une force de frappe dans les avant-ventes Capgemini assez énorme, tu vois. Et donc, ils gagnaient des gros clients. Et derrière, bah, il y avait moi en mode, ok, j'ai 21 ans, j'ai fait juste des petites applis et je vais me taper des clients comme, du coup, il y a eu Fnac, Leroy Merlin et tout. Donc, j'ai vraiment fait mes armes sur le tas comme ça. Et j'ai fait mes armes aussi sur un truc un peu annexe. Je sais pas ceux qui se rappellent de ça, mais Windows 8, le Metro Design, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Le fameux Windows qui a fait un gros flop.
Ouais, je me souviens avec toutes les tuiles et tout ça. Enfin,
avec toutes les tuiles.
C'est le cas de le dire.
Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que quand Microsoft a sorti ça, ils avaient du coup le Windows Phone, mais ils avaient aussi toutes les surfaces et les Windows tactiles, on va dire, enfin hybrides, dans lequel, dans le menu démarrer, il y avait un espèce d'Apple Store un peu bizarre, où quand ouais. on appuyait sur le menu démarrer, ça passait en full screen avec des tuiles. Alors ça a disparu depuis. Et toutes les enseignes de la région où je travaillais à Lille, donc c'est beaucoup de e-commerce, ils voulaient faire leur appli Windows 8. Ce qui était complètement bizarre, mais en fait, il s'avérait que Windows avait financé tous les grands retailers et toutes les grandes marques. Il leur avait donné l'argent pour que justement, ils fassent leur appli et que ça remplisse leur Windows Store. Et j'ai fait énormément d'applis Windows. Je me rappelle, j'avais un ami développeur qui s'appelait Vincent, et moi, j'étais avec lui et je codais en XML les fronts et c'était buggé de partout. On galérait trop à positionner les tuiles et j'ai fait pas mal de design, du coup, métro design. C'était rigolo et c'est mort aussi vite que ça arrivait parce que du coup, t'as bien senti qu'ils avaient essayé d'injecter de l'argent et puis après, l'année d'après, ça avait pas pris. Mais j'avais fait Carrefour Drive, enfin des trucs, mais qui aurait utilisé ça sur une appli Windows full screen, quoi. J'ai fait Fnac, enfin j'ai fait plein d'applis
mais métro. C'était juste pour ordinateur en plus?
Bah en fait c'était hybride, tu vois, donc à la fois t'avais le code qui se mettait sur ordi, sur tablette, parce que c'était touch friendly, tu vois, et à la fois t'avais une décli Windows Phone qui se faisait parce que c'était un concept, je pense, un peu trop novateur. C'est en vrai, moi en tant que designer, j'ai appris énormément de choses en me plongeant dans leur documentation à l'époque. C'est juste que les utilisateurs étaient pas prêts, quoi. Mais c'était hyper futuriste tout ce qu'ils avaient fait, toute la navigation qu'ils appelaient métro, inspirée de plein de choses. De la signalétique et tout, c'était passionnant, les grilles, le fait d'avoir supprimé tout le design, d'être sur un fond vide avec juste des hiérarchies de typos et tout, j'avais beaucoup appris avec ça, mais il s'avère que tout ça a vite disparu des vies de tout le monde parce que c'était vraiment, bah, c'était de l'argent injecté par Microsoft finalement pour tenter de remplir leur store, mais ça n'a pas pris, quoi. Donc, voilà. Un petit peu tout ce qui s'est passé, c'est que à Capgemini, j'ai eu deux grands starters dans ma carrière, c'était les applis e-commerce iPhone Android de la région et aussi cette histoire de Windows où j'ai pas mal dû faire d'interface. Voilà.
Je crois que tu es la première personne que j'entends me dire que sa carrière a décollé grâce à Windows et surtout ouais. grâce à Windows 8.
En vrai, tu vois, c'est en te le racontant que je me suis rappelé aussi un petit peu. Mais je t'avoue que tu vois, à l'époque où j'ai découvert ça, je pense que c'était la première fois où je lisais une doc d'interface, la première fois que je voyais des docs d'UI design, parce qu'avant, ça se limitait à des GUI, tu vois, G-U-I. C'est-à-dire que tu voyais tous les composants qui existaient en développement, tu avais une description de ce qu'ils faisaient, et puis voilà, donc iOS, tu avais la tab bar et ça expliquait, bouton back, ok, machin. Mais là, quand le Windows Metro, je sais plus comment ils appelaient, fluide, je sais plus comment ils l'avaient renommé après, mais Metro Design, tu vois, et ben il y avait une vraie doc avec des trucs, ouais, donc l'industrialisation de Bauhaus dans les années 1900 a fait que les objets se sont rendus plus minimales pour se soustraire à leur simple utilisation pure, nanana. Je lisais ça, je disais, oh, c'est passionnant et tout.
Ah
et
oui,
j'ai commencé.
La culture design qui était derrière et qui te.
Ouais.
Qui te
c'est là, j'ai commencé à, ouais, j'ai commencé à, je pense qu'il y a un switch dans ma tête, j'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était l'UI design. Et je pense que c'était 2010, tu vois, 2011 que j'ai fait ça. Et ça commençait tout juste, je pense, en France à apparaître. Et c'est là où justement, où j'avais un petit peu, cette idée de je suis UI designer, tu vois. J'aimais bien et je me suis intéressé à plein de choses après.
Okay.
Grâce à ce petit déclic, quoi.
D'accord, ouais. Donc en fait, quand t'es arrivé chez Capgemini, t'étais même pas UI UX designer, t'étais graphiste iOS développeur.
C'est une bonne question, hein. Je me rappelle même plus comment on était nommé. Je pense qu'on était. Enfin, je dis on parce qu'après, je te l'ai pas dit, mais quand je suis arrivé. Chaque année, on a recruté une nouvelle personne et on s'est structuré, on s'est même plus tard nommé le Creative Studio de Capgemini. Mais comment on nous appelait? On nous appelait les designers. Hein. Faut être très, très condescendant de SS2I. Mais non, attends, je réfléchis.
Les artistes de l'open space d'à côté.
Voilà, les classiques coloriage et tout. Voilà. Non, mais je réfléchis en même temps que je te parle, mais je sais pas quel était mon intitulé de poste, mais en tout cas, ouais, je sais plus. Je réfléchis. J'avais pas de carte de visite. On commençait à parler du UX design au bout de 1 ou 2 ans où j'étais là-bas, bien sûr. Mais au tout début, c'était pas web designer au final parce que c'était assumé que je faisais pas de web. Et j'ai fait beaucoup de l'applicatif à Capgemini. Hein. Que ce soit, du coup, Windows 8, je le mets dans l'applicatif parce que ça se lançait en applicatif. Puis après, c'était iPhone, Android, quoi. Ouais. Donc, je sais même plus. Je saurais même pas te répondre, en fait.
Bon, il n'y a pas de souci. Il y a un truc qui m'a surpris aussi en parcourant ton profil, c'est que tu n'étais pas simplement UX, UI, graphiste, enfin, appelons-le comme on veut, mais tu as beaucoup travaillé aussi sur des choses plus d'identité graphique et d'animation vidéo que tu fais encore aujourd'hui, par exemple, dans tes lives sur Twitch. Et je me suis demandé comment ça se fait que tu sois passé, tu vois, de l'applicatif à l'UI, je comprends, mais de l'identité graphique et de l'animation vidéo. Comment ça t'a... Comment t'es venu à faire ça?
T'as vu quoi comme projet de motion design sur moi? De moi, pardon?
Je ne sais plus, tout ce qu'il y a sur ton LinkedIn, des petites vidéos, petits personnages qui bougent.
Je vois très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, moi, je touche à tout à la base, tu vois. Donc, même si à un moment, c'est pas mon travail, je vais m'amuser à faire un truc, que ce soit sur After Effects, sur Premiere Pro et puis d'autres choses. Là, on parle de vidéos, donc voilà, c'est le bon exemple. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait de très bonnes relations clients avec la Fnac. On avait fait du coup, on a commencé par faire l'application iPhone Android qu'on a maintenue pendant 1 ou 2 ans. Après, elle a été reprise par une autre boîte, mais voilà, on avait de bonnes relations. Après, on avait fait Fnac Shop, une refonte rapide des interfaces des vendeurs dans les magasins. Tu vois les petites trucs qu'ils utilisent au clavier là quand ils cherchent un stock. Tu vois, on avait fait une version web pour remplacer la version type ligne de commande d'avant, quoi, en gros. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, il y avait les applications Windows 8 pour la Fnac. Et on a fait plein de sujets comme ça. Je les ai plus tous en tête, mais il y a eu plein de sujets. Et à un moment, ils ont dit, tiens, vous, là, on vous aime bien, en fait. On aime bien travailler avec vous. Vous faites pas des petites animations et tout, du petit motion? Parce que voilà, on était vu comme un creative studio, donc comme un studio. Et moi, j'ai fait, ouais, moi, je suis chaud et tout. Je veux bien tenter le truc parce que avec un autre collègue, on avait déjà tâté le terrain. On avait fait des petites vidéos, justement, au gré de POC ou d'avant-vente pour des projets soit factices, soit pour donner envie de bosser avec nous. Et on s'est dit, vas-y, on est chaud. Et avec un collègue qui s'appelait Alexandre, on s'est chauffé, on a chiffré du coup du motion design et on l'a vendu et on s'est éclaté. Et du coup, on a fait 1-2 vidéos pour Fnac, puis 5. Et depuis cette expérience, c'était devenu une offre une offre de notre équipe de Capgemini, quoi. Et comment j'en suis venu là, je sais pas trop, mais le fait de m'intéresser à ça, bah, je me suis lancé, je me suis chauffé, et je pense que ça caractérise un petit peu aussi pas mal de choses dans mon parcours, tu vois.
Ouais, j'ai vraiment l'impression que t'es un peu un touche-à-tout, et que, en fait, tes connaissances, tu les acquiers au gré des rencontres et des situations, où en fait,
exact, ouais.
tu te mets jamais de barrière, et je trouve ça très intéressant, et je trouve que ça fait... c'est important aussi dans notre métier. Alors moi, je suis plus product designer, mais je pense que c'est cette curiosité d'essayer d'aller voir d'autres secteurs ou en tout cas des verticales du design. C'est vachement intéressant pour progresser et puis comprendre comment les autres fonctionnent et comment travailler avec eux.
En tout cas, j'ai toujours marché à la motivation. C'est-à-dire, j'ai fait ça parce que je disais « Ah, ça me donne trop envie, tu vois, essayons. » Je ne me suis pas dit « Ok, il faut absolument que j'aille sur un truc que je n'ai jamais fait. » Genre là, par exemple, depuis quelques mois, je tâtonne sur des trucs de 3D. Mmh. Honnêtement, ça prend pas. Hein. Je force pas, j'y arrive pas. C'est pas mon truc du tout.
C'est dur. Hein.
Je fais des vieilles bouses et je fais « Allez, prochaine fois !» Donc, je suis pas non plus... Enfin, faut pas croire que toucher à tout, ça veut dire être genre trop fort. C'est juste, je fonctionne à la motive. Et quand t'as la motive, bah ça marche tout seul. Parce que même si c'est plus dur qu'autre chose, bah tu vas forcer, tu vas tryhard un peu, tu vois, et tu vas arriver à ton résultat. Et puis, en vrai, avec Internet, tu peux tout apprendre si t'as la motive, quoi.
Ouais, bien sûr.
Bah ouais.
Bastien, il y a un truc, t'es probablement la première personne que je reçois dans ce podcast qui a fait de l'agence et qui est toujours en agence. Et j'ai reçu des invités qui ont fait de l'agence et qui s'en sont lassés au bout d'un certain temps ou qui... Disons que maintenant, ces personnes-là sont aujourd'hui en start-up et réussissent à te dire ce qui est bien en start-up, ce qui est mal en agence et rarement ce qui est bien. Et j'aimerais bien profiter de l'occasion de discuter avec toi pour un peu parler de ce qui est de l'agence, de Capgemini et de Atecta, où on en reparlera après. Mais j'aimerais bien savoir comment toi, quand tu es en agence, en tant que UX/UI designer, comment tu fais pour travailler avec tes clients, pour leur expliquer ce que tu dois faire, leur expliquer ton travail, leur expliquer tes décisions, parce qu'au final, c'est quand même eux qui te payent, comparé à tous mes invités que j'ai eu en startup où tu es à la fois juge et partie. Là, toi, tu es plus... on te paye pour faire quelque chose, mais en fait, si le client est contre, à la fin, tu vas devoir te plier aux demandes du client.
C'est vrai. Du coup, ta question, c'est plus sur la fin. C'est comment tu fonctionnes quand tu dois travailler avec un client, plus que l'expérience en agence en général, c'est ça?
Écoute, si tu veux expliquer l'expérience en agence aussi, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait comment tu travailles en agence et comment tu t'interagis avec les clients.
Ouais, parce que tu l'as déjà dit, de toute façon, la différence entre agence et travailler directement chez le client final, bah, tout le monde la connaît. Hein. En agence, bah, t'as la flexibilité de changer de mission ou justement d'avoir un peu plus de recul. Et quand t'es directement dans chez le client, t'es jugé parti et tout. Donc, du coup, pour répondre à ta question, comment tu fais quand le client est pas d'accord et comment tu fais? Alors, le truc, c'est que si tu te positionnes, on va dire, tout de suite par rapport à ton client, enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'ai peut-être eu de la chance dans mes missions, mais quand tu arrives vers un client, il va te payer parce que normalement, il n'a pas la compétence pour caricaturer, tu vois. Donc, normalement, s'il te paye parce qu'il n'a pas la compétence et que toi, tu argumentes et que tu fais bien ton travail, que tu utilises les arguments de ton métier qui sont très factuels, très logiques, il n'y a aucune raison qu'ils te disent « Ah non, on fait pas comme tu as dit », tu vois. Après, évidemment, il y a toujours des cas de figure où... ça se passe pas bien ou ça se passe pas comme on voudrait. Mais si on arrive à prendre le recul, à dire, factuellement, tu préfères ça, moi je préfère ça, il y a toujours un argument qui va fonctionner en design d'interface et en UX design, c'est, testons. Je veux dire, à un moment, je fais pas du design pour toi, Gauthier qui m'emploie, je fais du design pour tes clients. Donc, allons voir tes clients. Et aussi bien ça peut te montrer que toi, t'as faux ou que le client a faux, peu importe, mais il faut pas tout le temps penser à la situation de le client aime bien ce que je fais ou pas. Moi, je me mets toujours dans la réflexion, qu'est-ce qui est bien pour les utilisateurs finaux. Et dès que tu dis ça à ton client, je veux dire, il y a plus d'éventuels porte-à-faux ou de je préfère ça, et on est tous les deux vers le même but. Et je pense que c'est ça qu'il faut souligner dès le début de ta mission. Tu dis, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut améliorer cette expérience de ce client. Ok, faisons-le ensemble, quoi. Et normalement, à partir de là, il n'y a plus de soucis, tu vois.
Et justement, en parlant de clients et d'utilisateurs, toi, dans ton métier, en agence, est-ce que tu faisais justement de la recherche utilisateur, que ça soit en amont pour essayer un peu de définir les besoins de ton client et essayer de cadrer son problème, ou plutôt en aval, donc plus du test utilisateur, de savoir est-ce que ce que tu as fait marchait bien, est-ce que c'est toi qui t'en occupais ou est-ce que quelqu'un d'autre le faisait pour toi?
Ça va beaucoup dépendre de la taille de l'équipe dans laquelle tu arrives. J'ai travaillé chez des clients où bah ils ont rien et puis on arrive à 2-3 de la même agence, tu vois. Mm-hmm. Et on leur propose des choses, on dit voilà, il vous faudrait une UX exploratoire avant, il vous faudrait un UI designer et un UX pour une phase d'itération et de test, etc., etc. Ça, c'est le truc classique. Donc, quand c'est comme ça, si c'est une toute petite équipe, je peux être garant de le faire de A à Z, mais il s'avère que ces dernières années, je suis plutôt dans des plus grosses équipes. Et dans ce cas, je suis toujours, on va dire, en binôme ou toujours entouré par des UX researchers, entre guillemets, purs, tu vois. Mmh. Sachant que ça veut dire que moi, je vais pas trop faire du UX exploratoire. Ce sera le travail d'une autre personne. Moi, j'aime bien, en tout cas, et je suis positionné sur ça, sur la phase prototyping, interface et cette petite boucle d'itération de test. Évidemment, j'ai un petit peu d'années derrière moi, donc j'ai, on va dire, des bonnes connaissances, une bonne seniorité qui me permet aussi d'avoir un meilleur bagage et de savoir prendre des meilleures décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de test utilisateur pour autant. Donc, moi, mon profil aujourd'hui, il va être très centré sur cette phase-là et je serai souvent associé à un UX designer. Parfois, tu arrives en mission et l'UX designer, il est soit en interne, soit d'une autre agence aussi. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais dans tous les cas, il y a des rôles bien définis et tout dépend de l'organisation du client et de comment ils font leur boucle d'itération, etc.
Mais je trouve ça intéressant parce que tu démystifies aussi un petit peu l'image qu'on a de l'agence qui est justement ce qu'on disait tout à l'heure, les clients qui arrivent, qui te demandent un truc et toi tu le fais. Je trouve que c'est intéressant d'en parler avec toi puisque ça montre bien que tu as toute cette partie de réflexion du projet en amont et de tout ce qui est itération. Tu vois, moi j'ai encore l'image de t'as une grosse boîte qui arrive, qui te demande un truc, tu le fais. C'est ce qu'on appelle communément un cycle en V. Ça commence, vous le faites, vous le sortez et puis voilà, ouais. C'est fini.
Ouais, ok. Non, c'est vrai que je sais pas si chez Atecna ou si autour de mes projets on est chanceux. Mais comme tu le dis, on a plutôt des clients, en tout cas, qui vont vers l'agilité et qui ont toutes ces notions. C'est vrai que si je remonte peut-être 5 ans en arrière, il y avait quand même des fois besoin de faire passer une sensibilisation agile, un coach agile, etc. Mais j'ai peut-être bien choisi mes agences. J'ai pas été dans des agences qui me mettaient sur des missions, justement, comme tu le dis, très cycle en V. Ça a toujours été des dispositifs qui répondent à des problématiques clients. Et mes agences répondaient jamais positivement aux demandes clients qui sont « on a besoin de 27 jours de designer ». Ah bon, pourquoi 27 jours, tu sors ce chiffre d'où? Bah je sais, je suis le client, allez venez, on répond jamais à ça. Par contre si un client nous dit « voilà, j'aimerais améliorer l'expérience utilisateur sur la fiche produit parce que ça, ça, ça », bah là on va répondre et c'est pas la même chose. Et je pense que ça dépend de l'agence aussi quoi.
Ok, très bien. Et une fois que le projet il est sorti, tu vois, c'est aussi un retour qu'on m'a fait, c'est que quand le projet est sorti, bah voilà, vous passez au projet suivant. Est-ce que toi, en tant que UX designer, ça t'intéressait, ou est-ce que l'agence s'intéressait à savoir si ce que vous aviez fait performait, répondait aux besoins, tu le disais tout à l'heure, par exemple vendre plus ou attirer plus de personnes. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui vous intéressait pour vous améliorer et pour que la mission d'après, vous soyez encore meilleur, que vous sachiez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché?
Ouais, alors évidemment, ça nous intéresse. Mais comme tu peux le deviner, c'est pas toujours facile d'avoir ces infos ou d'être encore là à ce moment-là. Parce que, comme tu t'en doutes, des missions, ça a une fin. Donc évidemment, quand tu fais des missions moyennes ou longues, t'as quand même la chance de rester un petit moment. Mais parfois, quand des choses que tu as conçues se lancent, c'est peut-être des fois 6 mois ou 1 an après la conception, hein, faut pas se voiler la face, des fois tu n'es plus là, voilà. Après, il y a aussi des clients où il y a du turnover, il y a des choses que tu as faites qui sont déscopées ou réorganisées puisqu'il y a des changements de budget, etc. Donc, je pense que c'est la partie la plus difficile, entre guillemets, en tant que designer d'interface en agence, c'est que tu vois pas toujours ou pas souvent des choses sortir. Ça, c'est une chose que tu vois plus quand tu es soit en start-up, soit sur des plus petits projets. Mais c'est vrai que c'est un petit manque. Après, on a aussi la chance de bosser de façon plus agile. Et dans mes projets récents, des sprints sont assez courts et on peut voir des features sortir. Et quand tu restes 6 mois ou 1 an sur la même mission, bah évidemment, la feature sort, on regarde les analytics pour voir si les gens ont cliqué, si les gens se sont trompés, etc. Et on répare. Et ça, c'est très agile. Par contre, il y a des fois, malheureusement, le projet fait que tu ne peux pas voir la suite de ton projet et tu ne peux pas en apprendre plus. Par contre, quand tu es encore dans le projet et que tu as cette petite boucle d'itération et d'analytics, bah oui, c'est un des entrants les plus intéressants pour faire avancer l'interface, en effet.
C'est pas trop frustrant, du coup, pour toi, justement, de pas avoir accès à toute cette donnée, d'avoir passé tout ce temps sur ce travail, d'avoir itéré, d'avoir passé du temps pour améliorer tout ça, et te dire qu'en fait, à la fin, tu sais pas si ça a marché ou pas.
Bah, en fait, là, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment. Ça m'a fait écho quand on a parlé, parce qu'effectivement, j'ai déjà fait des projets de sites qui duraient 2-3 mois. Donc moi, j'ai fait le travail consciencieusement, bibliothèque, petit design système avec le développeur, etc., etc. Merci, fin de la mission. Des fois, tu te connectes sur le site et en fait, il a été refait autrement au bout de 6 mois. Tu dis, bon, là, ça fait chier, en effet. Par contre, chez Atecna, on a des clients là actuellement sur lesquels on travaille avec la longueur. Donc ça m'arrive plus trop. Et en plus, on arrive à travailler en plus avec plusieurs collaborateurs de la même agence. Donc là, on a un bon suivi et on a accès aux analytics et on arrive à itérer, à apprendre des éléments. Ah, ça, ça n'a pas du tout été cliqué. Ah, ça, c'est super cliqué. Il faut vraiment pas l'enlever, etc., etc. Donc là, j'ai pas trop ressenti cette frustration ces dernières années, en tout cas.
Ouais, je trouve ça intéressant. Ça prouve aussi que les clients qui travaillent avec des agences ont un peu intégré ce principe-là et se disent que justement c'est de l'itératif et que si tu demandes juste une mission et que tu passes à autre chose ensuite, ça sera peut-être pas bénéfique pour eux.
Ouais, alors encore une fois, je mets un petit disclaimer dans les missions que j'ai eues ces dernières années parce que, alors je sais pas si c'est mon agence qui choisit très bien ses clients ou les clients qui sont plus mûrs, ça doit être un peu les deux, mais ça veut pas dire que si vous écoutez ce podcast et que vous allez en agence, ça va être à 100% ça. Si vous avez un mauvais commercial ou un mauvais directeur qui accepte sans vraiment réfléchir à l'expérience client et qui met juste des designers à des postes, là, ça marchera pas. Mmh. Parce qu'il y a une vraie réflexion dans mon agence autour de ce métier-là aussi. Je pense que ça joue pas mal.
Mais tu vois, en fait, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que, encore une fois, quand j'ai eu certains de mes invités qui m'expliquaient leur passage en agence où c'était vraiment t'arrives, tu fais une mission, tu délivres, tu t'en vas, tu sais pas si c'est bien ou pas, tu sais pas si ça a bien marché ou pas, et tu... Tout ce que tu disais tout à l'heure, tu te rends compte que 6 mois après, le site, il a à nouveau changé, tu te poses des questions. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient un budget à dépenser?
Ouais, après, justement, c'était des missions de combien de temps, tu sais?
Non, écoute, j'ai pas...
Parce qu'en fait, moi, j'ai fait des missions de 2-3 mois, et en effet, quoi qu'il arrive, tu auras ce sentiment-là, parce que bah, ils ont pas assez d'argent pour te garder plus. Mmh. Après, dans le nord de la France, les plus gros budgets, les clients, on va dire, les plus safe, c'est surtout tourné autour du e-commerce. La famille Mullier, tout ça, voilà. Et du coup, on arrive à avoir des missions qui sont sur la longueur. Il y a eu un petit cas particulier vers mai 2020. Voilà, il y a quelques projets qui ont été cut. Oh, on ne sait pas pourquoi.
On se demande pourquoi.
Mais sinon, les collaborateurs et les autres designers de mon équipe qu'on positionne en mission, c'est pas pour 3 mois. Hmm. Voilà, c'est 1 an, 2 ans. Voilà. Après, je dis c'est 1 an, 2 ans. S'ils le souhaitent. Après, s'ils souhaitent sortir. Bien sûr, on leur propose d'autres challenges, d'autres missions, mais là, le truc, c'est que bah, c'est quand même cool de pouvoir suivre un sujet sur la longueur, et les gens apprécient.
Je comprends. Si on revient un tout petit peu sur Capgemini, parce que je te pose des questions d'agence, et donc du coup, comme c'est tout ton expérience, on parle au global, mais si on revient sur Capgemini, t'as été pendant 5 ans UX/UI designer, et après, ouais. T'es devenu digital art director.
Ouais, ok. Et,
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ton métier? Enfin, est-ce que ça avait véritablement un impact? Est-ce que ça voulait dire que tu gérais des personnes dans une équipe? Qu'est-ce que ça a, cette implication de changement de titre pour toi?
On s'est beaucoup cherché sur LinkedIn ces années-là. Hein. Tu vois, tu me ressors des trucs et j'y repense. Alors oui, alors le nom est peut-être pas incroyable, mais en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est que étant le premier à être arrivé dans l'équipe, et comme je t'ai raconté tout à l'heure, on a recruté une personne tous les ans, en gros, bah, j'avais un peu appris à commencer à coacher, à manager. Donc, on m'a donné un peu ces responsabilités-là. Je dis ça avec des pincettes parce que la façon de manager de Capgemini, à la longue, m'a pas trop plu. Donc, je l'ai fait comme une évolution personnelle, mais je m'y suis pas forcément retrouvé, en tout cas dans la structure de Capgemini, tu vois. Mais le fait est que, du coup, j'ai cherché un titre LinkedIn, très important. Je rigole parce que LinkedIn, à chaque fois, ça me fait penser à des trucs un peu ironiques. J'y vais de moins en moins parce que, genre, c'est blindé de flou, c'est des pastilles rouges tout le temps, des trucs aléatoires. J'y comprends plus rien. Bref. Et du coup, j'ai cherché un titre LinkedIn qui voulait un peu dire, bah, UX UI, un peu dire, voilà, je commence à manager. Mais aussi, comme tu l'avais exprimé, je commençais à faire des choses qui n'étaient pas de l'UX UI, comme le motion design et tout. Donc, j'avais voulu dire, le mot DA, c'était le mot à l'ancienne. Hein. Du coup, on essayait de dire DA digital. Ouais, allez, on tente. Et du coup, j'ai dû passer par cette casquette sur LinkedIn quelques années. Et je me suis vite retrouvé plutôt à écrire lead UI designer. Au moment où je suis arrivé chez Atecna, justement, je pense. Dans le sens où j'ai déjà identifié que je préférais l'UI design que l'UX design. Sachant que l'UX design s'était mis à toutes les sauces et ça m'énervait un petit peu. Parce que les gens disaient UX design pour... Oh, t'as vu, j'ai acheté le nouvel iPhone pour être fort en UX design. Je fais, quoi? Quel rapport? Bah, j'apprends des patterns. Ouais, rien à voir. Ou alors les gens qui disaient UX design pour le graphisme. Enfin, tu vois, il y avait des gros mélanges, tu vois. Mm. Donc moi, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment revendiqué UI designer, encore plus qu'avant. Et c'est là aussi où j'ai créé Basti UI sur YouTube, d'ailleurs. Et ce petit UI, c'était aussi un petit peu un pied de nez à tous les gens qui devenaient UX designer sur, bah, justement, LinkedIn. Tout le monde devenait UX designer, ça m'énervait vraiment. T'avais des gens qui disaient, ouais, moi, je travaille dans le web, je suis UX designer. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, t'es juste chef de projet, tu vois. Genre, ça m'énervait vraiment. Et donc, j'avais mis un point d'honneur à écrire UI designer. Et il s'avère que encore jusqu'à très peu, les gens faisaient vraiment pas trop la différence. Et maintenant, en tout cas, dans notre agence, on fait gaffe à bien différencier UX designer, c'est plus UX research, pour caricaturer quelqu'un qui touchera pas du tout à de l'interface, et product designer, UI designer, quelqu'un qui va faire plus les interfaces. Et on essaye de faire cette différenciation pour éviter ce flou qui a été artistiquement dégueu pendant 10 ans. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi ça me titillait vraiment à l'époque.
Tu vois, moi je suis un peu plus jeune que toi, donc du coup j'ai plus connu la période où en fait t'arrivais les UX UI designers c'était des product designers cachés. Et tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que pour moi la notion est encore différente. Tu vois, c'est tellement splitté. Tu vois, t'as les UX researchers, t'as les UX designers, mais c'est vrai que cette catégorie-là, je sais jamais trop où la mettre. T'as les UI qui s'occupent vraiment de mettre de la couleur, faire en sorte que l'application soit jolie, qu'il y ait des belles animations. T'as le product designer qui essaye d'occuper tout le scope de la recherche jusqu'à la fin. Tu vois, toi, tu dis c'est des product designers, mais qui s'occupent de la UI. Il y a, je pense, encore ce problème de notion de nom.
Ouais, carrément. Et c'est complètement. Et du coup, moi, j'étais vraiment pas... Quand je voyais UX UI, je me disais, mais en fait, moi, j'ai pas de formation sur créer des personas, mener une interview et tout. Je me suis dit, déjà, c'est pas la phase du métier que j'aime le plus. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Attention, je dis que j'aime pas le faire, moi. Mais quand je reçois les interviews et les personnages, j'adore. C'est hyper instructif. Mais c'est juste que moi, c'est pas ce qui me fait vibrer. Et en plus, les gens l'utilisent à toutes les sauces et ça m'agaçait un peu. Et c'est là aussi, je me suis dit, OK, UI designer, c'est là-dedans que je veux performer. Et en plus, il y avait toutes les problématiques de librairie design system qui arrivaient à ce moment-là. Donc, c'était parfait, j'adorais. Et lead, c'est parce que du coup, j'ai eu cette casquette un peu de personnes expérimentées et aussi cette casquette de personnes qui savaient transmettre et expliquer aux autres et un peu emmener l'équipe, motiver l'équipe sur des sujets, et voilà. Donc, DA digital est vite devenu lead UI designer, du coup.
Aujourd'hui encore, tu gères une équipe ou t'es vraiment plus là en tant que mentor
C'est une très bonne question. J'ai, un peu comme chez Capgemini, on me l'a pas empêché de gérer une équipe, comme tu le dis. Mais en fait, je me rends compte que ça m'intéresse pas trop dans le sens, quand tu gères une équipe, il y a le côté organisationnel et financier qui arrive. Et ça, c'est pas ce qui me fait kiffer non plus. Par contre, toute la partie mentoring, coaching et faire grandir les gens, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, chez Atecna, je suis manager de quelques personnes. J'anime aussi la communauté, mais de façon... on va dire pas officieuse, mais de façon à, voilà, on va faire un meet-up, on va parler de ça, etc. Mais je suis pas le chef de l'équipe. Ça, ça me ressemble pas trop, tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas là, ok, on va staffer les gens, donne-moi ton TJM, j'ai des contacts, je suis pas commercial. Enfin, tu vois, j'ai toute cette facette de la personnalité d'un leader d'une communauté ou d'un chef d'équipe, je l'ai pas et j'ai pas trop envie de la développer, tu vois.
C'est intéressant. J'aimerais bien en rediscuter un peu avec toi parce que il y a quelques temps, j'ai publié un épisode de Julien Hillon qui est lead product designer chez Conto.
D'accord.
Et qui, lui, justement, expliquait que être manager, c'est un choix conscient, qu'il faut se poser les bonnes questions et que c'est pas grave d'être juste product designer dans son cas,
ouais,
où tu veux améliorer tes compétences et devenir très très bon dans ta catégorie sans gérer des gens.
C'est et ça.
J'ai vraiment l'impression que toi, tu es cette partie-là. Mais du coup, quand tu travailles avec cette équipe, avec ces gens-là, toi, quel est ton rôle du coup? Parce que tu dis que tu es là pour les aider, mais pas trop, ce que je comprends totalement. Et voilà. Mais du coup, quel est toi, en fait, quel est ton rôle de mentor? Comment tu gères ton quotidien là-dessus?
En fait, déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit avant, en effet, dans les entreprises classiques, souvent, les augmentations de salaire et la reconnaissance en vieillissant, en grandissant dans ton métier, elles se font par devenir manager, ouais, et responsable. Et comme tu l'as dit, tu fais plus ton travail et voilà. Et il faut pas... Enfin, c'est triste, mais il y a aussi un autre moyen d'avancer. C'est-à-dire que tu peux aussi juste performer dans ta technique sans devoir gérer des gens, tu vois.
Mais je trouve que c'est très français comme manière de penser.
Ouais. Ouais, c'est triste parce que moi, je me rends compte aussi que dans pas mal de cas, ça m'a fait stagner, tu vois. C'est triste. Tu dis non, moi je veux juste être encore plus fort dans mon métier et être un expert et être une référence et tout. Ah ok, mais le grade supérieur, faut être manager, donc t'as pas... Enfin, what? Enfin, y a pas que ça. Et surtout qu'après, quand tu deviens responsable, chef, manager, souvent tu travailles moins dans ton métier et en plus tu perds du skills. Et faut pas... Enfin, tu peux être un très bon leader, c'est-à-dire... motiver les gens, passionner les gens et un très mauvais manager, quoi. C'est pas la même chose.
Okay, donc toi, on va dire que t'es plus intéressé par cette partie leader qui est d'essayer, ouais, d'insuffler des...
Ouais, et du coup, j'ai un peu oublié ta question, mais moi, du coup, chez Atecna, je manage et j'aime beaucoup ça parce que c'est très enrichissant, du coup, de suivre des personnes. Et le truc un peu spécial chez Atecna, je sais pas si dans d'autres entreprises, ils font ça aussi, mais c'est que les managers sont pas agnostiques, c'est-à-dire qu'ils sont de la même communauté d'expertise. Ce qui fait que moi, je coach que des designers. Mmh. Et du coup, ça permet d'avoir à la fois un suivi de type coaching, mais aussi un suivi de type managerial, en tout en un. Tu vois. Donc ça, c'est cool. Et c'est aussi pour ça que je m'y retrouve aussi. Par contre, si je devais manager un développeur ou, je sais pas moi, une RH, bon, je pense que ça m'intéresserait tellement pas, quoi. Yeah. Je veux dire, c'est le rôle de manager pur, agnostique, qui représente comme ça la carrière de la personne en agence, ça m'intéresserait pas, tu vois.
Donc, tu veux toujours être lié au réel.
Ouais, je pense que voilà. Après, j'arrive à le faire. J'échoue pas quand je le fais, mais je sais que c'est pas là où j'excelle et je sais où c'est pas là où j'ai ma zone de confort où je peux avoir mon talent qui s'exprime vraiment. Tu vois. Après, je suis pas non plus en mode ouh, j'arrive pas. Tu vois, mais c'est vraiment plus en mode. Je sais que c'est pas là où je m'éclate. Et du coup, ouais, ta question, c'était, rappelle-moi.
C'était de... plus... Non, t'inquiète pas. C'était un peu de comprendre comment, justement, toi, tu fonctionnais avec ces gens-là. Parce que j'ai reçu pas mal de leads, tu vois, qui t'expliquent un peu comment ils discutent avec les gens, comment ils les font progresser. Et j'aimerais bien voir, toi, comment tu fais pour faire progresser les gens.
Ok. Bah, en fait, encore une fois, ça a été un petit peu modifié par le confinement et le télétravail. Mais mon rôle dans l'équipe, bon, je manageais déjà, mais manager hein, de façon très classique avec des points toutes les deux semaines, tous les mois, donc ça, rien de spécial. Par contre, j'avais un rôle plus de dire hey, écoutez, ça vous dirait, on se réunit tous ce midi-là et on va parler de la nouvelle fonctionnalité d'Adobe XD, tout le monde va faire 5 minutes pour parler. Enfin, voilà, j'étais plus l'animateur, plus impulseur, tu vois, dans l'équipe. Et je sais pas si ça va te faire une transition ou pas, mais c'est depuis le confinement que j'ai pu eu ça dans mon agence et où j'ai commencé à allumer Twitch. Et en fait, je sais pas si t'as déjà vu un petit peu comment je suis sur Twitch.
Bien sûr.
Mais en fait, je retrouve ce que je faisais, entre guillemets, pour prendre une métaphore, en open space avec mon équipe avant. C'est-à-dire que j'étais cette personne-là qui disait « Eh, vous avez vu, vous voulez pas qu'on teste ? Venez, on se réunit, on fait ça. » Ou « Ah, venez, on va à cette conférence et puis après, on va faire une restit. » Enfin, j'étais un peu cette impulsion pour ça, plus lead dans ce sens-là, tu vois.
Mais tu vois, je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu dis, avant même qu'on parle de Twitch et de ce que tu fais, c'est la façon dont tu gères, excuse-moi le terme, il est pas bon, mais comment tu interagis avec tes managers. C'est que généralement, on entend un peu, tu sais, ce que tu disais tout à l'heure, des one-to-one où tu vas discuter et puis tu vas parler salaire, etc. Ou alors ouais. Tu vas te concentrer que sur une feature sur laquelle tu travailles. Je pense que c'est ouais. beaucoup le cas en start-up. Et toi, tu es vraiment sur quelque chose de différent qui est de passer du temps sur. Enfin, tu parlais d'Adobe XD, mais vraiment de prendre le temps de discuter d'un sujet qui concerne tout le monde, mais qui est aussi extérieur à l'agence ou à l'entreprise, tu vois, où c'est vraiment quelque ouais. chose où chacun est au même niveau. Tu vois, je me dis par exemple, tu peux être manager, mais en fait, tu vas découvrir la même fonctionnalité que les autres au même moment, de la même façon.
Bien sûr, là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, je te rassure, mes managers que j'ai vraiment officiellement en suivi, je les manage classiquement aussi. Il y a des points à remplir, etc. Par contre, tout ce que je t'ai évoqué juste avant, c'était plus des initiatives où tout le monde est convié, toute la communauté et même les gens qui sont intéressés en général. Alors, je te dis ça, encore une fois, ça s'est coupé en début 2020, mais je te parle du coup des deux années avant, quoi. Et du coup, vraiment, c'était en mode qui veut parler de ce sujet, Atecna offre la nourriture si vous venez entre midi et 14h, on va brainstormer sur ça. Ah, il y a le multicurseur sur Figma qui veut venir tester. Enfin, c'était vraiment un petit côté passionné, tu vois. Et j'animais pas mal ça. Moi, j'étais un peu le moteur de ça et qui emmenait les autres avec moi à l'époque. Et c'est vrai que ça, je l'ai perdu depuis un an, mais du coup, j'ai compensé, comme tu l'as dit, avec une activité sur Twitch où je trouve un autre terrain de jeu pour partager avec des gens passionnés. Et tu vas me dire pourquoi tu continues pas à le faire dans ton agence. On a essayé, mais il s'avère que les gens en ont juste ras le cul d'être en visio de 9h à 18h. Et si tu leur dis, venez, on va faire une visio de 19h à 20h et on va parler encore de travail. Pas dispo. Ok, bah, c'est pas grave, je vais faire tout seul. Et je comprends. Et en fait, on n'a pas trouvé de format qui remplace ça. Et du coup, c'est un peu triste vu comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qui me caractérise dans mon travail, tu vois, ce côté-là. Si tu voulais avoir des petits exemples, c'est plus ça.
Ouais, du coup, je trouve ça très intéressant parce que tu as commencé sur YouTube. D'ailleurs, ouais. Comment tu as commencé sur YouTube ? Qu'est-ce qui t'a lancé sur YouTube ? Pour qu'on parle un peu de tout ce qui est partage de connaissances, etc.
Ouais, grave. Bah écoute, ça, encore une fois, merci à Tecna. Parce que c'est en arrivant à Tecna que c'est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant chez Atecna, je quittais Capgemini, du coup, avec quelques petits, désaccords sur la vision des choses, de gérer une équipe et de gérer un projet. Voilà. Encore une fois, ça devait être un dilemme entre faire de la qualité ou essayer de faire grossir l'équipe, où j'ai pas trouvé ma place, tu vois. Mm-hmm. Voilà. Et ça, je le comprends un peu parce que j'avais pas cette casquette, tu vois, de manager, de leader d'équipe. Donc, ça a été repris par d'autres personnes qui étaient plus dans le moule de l'agence, enfin de la SS2I, de la ESN Capgemini, et où j'avais plus trop ma place, quoi. Donc, j'aurais pu rester là-bas pour juste faire mon travail, comme on l'a dit tout à l'heure, mais j'avais envie d'autre chose. En arrivant chez Atecna, justement, il y avait cette promesse d'être dans une plus petite structure et du coup d'avoir des responsabilités dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire avoir des espaces pour impulser des choses, faire vivre du coup la communauté de designers à Tecna, voilà, etc. Et parmi tout ça, on m'a dit, bah Bastien, à l'époque, moi je connaissais bien Sketch, on m'a dit, bah du coup, premier challenge, ce serait bien que tu formes un peu tout le monde à Sketch, mais tout le monde est en régie. T'as une idée. Ta carte blanche. Du coup, moi je me suis posé, je fais ok. Tout le monde est en régie, qu'est-ce que je pourrais faire, une vision, un truc, les ramener à midi, bah, c'est un peu long. J'ai dit, je vais faire une vidéo. Et comme ça, tout le monde pourra la voir en asynchrone. C'est-à-dire que si t'es pas dispo le jour de la visio, ou si t'es pas dispo le jour de la réunion physique, bah, il y a une vidéo. Et du coup, au lieu de capturer une visio dégueulasse en filmant la webcam dans la salle de réunion, j'ai dit non, je vais faire la vidéo chez moi. Et donc là, j'ai mis la caméra. Alors, petite parenthèse, j'étais très fan de YouTube en général. Et du coup, pour moi, c'était trop drôle. J'ai pris du plaisir aussi. Je me suis dit, comme pour le motion design un peu, hein. Je me suis dit, tiens, je vais apprendre sur le tas à faire ça. Donc, comme un enfant, tu vois, je m'amuse et tout. Et je fais la vidéo et tout. Je la montre à mon boss, il dit nickel, on peut diffuser, donc on envoie ton léger en plus, parce que voilà, j'étais nouveau dans la boîte, donc c'était cool et tout. Et je lui dis, en fait, la vidéo, là, j'ai pris X jours à la faire sur le temps de travail. Est-ce que je peux la mettre sur Internet? Et si les gens, ils me connaissent ou ils veulent travailler avec moi ou avec nous, bah, je renvoie tous les points de contact à Techno. Mon boss, il dit, OK, rien à perdre, vas-y, go. Et puis voilà. Et puis, une deuxième vidéo. J'en fais une deuxième. On commence à avoir des petits contacts. Ah, trop bien le tuto, vous pouvez nous faire une formation et tout. Et là, on se dit, ah, il y a peut-être un truc à jouer. Et donc là, on crée une offre de formation qui est partie du coup de ça, où j'ai commencé pendant une année, deux années à donner des formations sketch en entreprise. Donc ça a démarré grâce à YouTube. En parallèle, YouTube, du coup, j'avais toujours un peu de temps pour en faire en tant que, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais porte-parole, influenceur, voilà, je suis chez Atecna, je vous parle des petites news, je vous parle de choses et tout. Et j'avais plus ou moins carte blanche, tant que ça ramenait un peu de contact et tout. Donc, on reparlera des formations après. Du coup, je continue sur l'histoire YouTube. Et moi, je le faisais toujours avec beaucoup, beaucoup d'autodérision. Parce que déjà parce que j'étais fan de pas mal de choses sur YouTube. D'ailleurs, une de mes inspirations dans ma tête d'il y a très longtemps, je m'étais dit, je vais faire joueur du grenier version designer où il s'énerve sur tous les sites qui sont nuls. C'était ma première idée à la base. Je l'ai jamais fait depuis, mais pour te dire un peu, l'ADN de mes idées, des fois, c'était des trucs un peu farfelus comme ça. Et du coup, je continue à faire mes vidéos et à vendre des formations et tout, c'était cool. Et mes boss, ils me laissaient faire ce que je voulais, tu vois. Et à un moment, ils m'ont dit, il faudrait pas brander un peu au nom de l'agence et tout, parce que du coup, voilà, pour que ça fasse plus pro et tout. Et là, on était un peu déjà plus d'accord parce que j'ai dit, bah, les gens, ils aiment bien parce que c'est humanisé, tu vois. C'est pas une vidéo d'agence. Ça, c'était ma conviction à l'époque. Alors, quand je te dis à l'époque, j'avais 1500 abonnés. Enfin, c'était tout petit, tu vois. Je dis, non, ma conviction, c'est que les gens, ils s'attachent au truc parce que je dis, salut, c'est moi, je vous raconte mon expérience perso. Et pas, bienvenue dans l'agence qui explique une vidéo d'agence. Les trucs, enfin, tu vois. Et à ce niveau-là, on a dit, ils m'ont dit, OK, ça marche, on comprend ton idée. En parallèle, on a lancé une autre série de vidéos, du coup, brandées, et ça a pas pris, tu vois, pour te dire un petit peu. Et du coup, après, bilan de ces quelques années en arrière, les vidéos, c'est très cool. On a vendu quelques formations grâce à ça. Mais au ratio temps passé et argent qui arrive dans l'agence, on s'y retrouve plus. Du coup, Bastien, tu peux continuer ton projet de ton côté si tu veux. Mais nous, on arrête de donner du temps libre, tu vois, sur le temps. En gros, je faisais ça un vendredi sur quatre, tu vois, je faisais un petit truc, quoi. Et donc moi j'ai dit bon bah dommage, ça commençait un peu à exploser, mais il y a pas de souci, je comprends. Ce qui se passait, c'est que les contacts qu'on avait par les vidéos étaient pas assez, et en fait ils étaient bien, mais ils étaient pas adaptés à une agence, tu vois, ils étaient adaptés à un freelance ou adaptés à une plus petite structure, mais les demandes étaient trop petites, c'était des projets à trop petit budget. Du coup, si Atecna les traitait, bah ça prenait autant d'argent de les traiter que de les faire, et voilà. Donc c'était tout à fait logique et il y a pas eu de souci à ce niveau-là, j'ai compris. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai continué à faire les YouTube sur mon temps libre, tu vois. Et puis après, bon, bah, ces derniers mois, il y a eu pas mal de choses qui me sont arrivées. Grâce à Twitch, j'ai encore plus de visibilité et le fait d'avoir été justement invité sur l'émission de Micode Underscore, ça m'a fait pas mal de visibilité. Et là, bah, les chiffres, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on discutait en off, ils ont pas mal explosé. Là, ce matin, j'ai atteint, du coup, 30 000 abonnés, ce qui est complètement incroyable pour le mois d'il y a 6 mois, même je pense que j'avais quoi, 8000 abonnés, je sais même pas, enfin c'est un truc de fou. Et du coup aujourd'hui ça prend une autre proportion que à l'époque où j'avais commencé, qui était plus le mode tutoriel partagé gratuitement pour essayer de faire de la visibilité à une agence, tu vois.
Si on va vraiment reparler encore de tout ça après, mais t'as abordé la formation et c'était le dernier point que je voulais aborder avec toi sur l'agence. C'est toi, donc du coup, tu fais des petites vidéos, on commence à te contacter pour faire des formations. Comment ça se passe pour les entreprises pour faire des formations? Parce que tout à l'heure, tu le dis, on est entre designers, on parle de la dernière fonctionnalité de Adobe XD. Normalement, tout le monde parle le même langage, donc tout le monde se comprend, ça va très vite. Là, dans des formations, à qui tu t'adresses? Comment tu les formes? Comment tu leur apprends des choses?
Ok. Bah, les formations, en fait, qu'on a fait là durant ces deux dernières années avec Atecna, c'était principalement des agences qui n'étaient pas encore sur Sketch ou qui n'étaient pas encore sur un outil moderne adapté au design d'interface et qui avaient besoin d'aide. Ça allait au-delà de la formation, dans le sens où c'était surtout, on a une équipe de 10 personnes et il faut nous aider à réorganiser la façon de travailler aussi, tu vois.
D'accord.
Donc, ma formation n'était pas une formation de web design, ni de design d'interface, ni quoi que ce soit. C'était une formation qui s'appelait industrialiser l'UI design, en gros. C'est-à-dire, comment on travaille bien. Parce que t'as beau avoir Sketch, Figma, XD dans les mains, tu peux l'utiliser n'importe comment. Et du coup, ma formation, qui est devenue notre formation, parce que du coup, je l'ai faite une fois ou deux, et après, bah moi, j'ai formé d'autres personnes à la faire, et aujourd'hui, on a un panel de formateurs chez Atecna qui ont tous leurs spécialités, c'est trop cool, tu vois. Mais du coup, le début de cette formation, c'était justement de se dire bah, comment on utilise bien les outils et comment ça accélère le travail au quotidien en équipe. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'un style, un symbole, l'outil, qu'est-ce qui se passe, machin, comment on livre à des développeurs les outils de end-off, les librairies, les design systems, tout ça, c'était des sujets hyper importants. Et ça allait des fois jusque des ateliers de nomenclature pour aider les gens à, voilà, même leur dossier, leur drive, leur cloud. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont vraiment faites dans un état, entre guillemets, lamentable et que moi, j'avais beaucoup d'intérêt. Enfin, j'aimais beaucoup aussi travailler sur l'organisation et la fluidité entre les équipes, entre les designers. Et du coup, cette formation, elle était vraiment orientée sur ça. Et du coup, on l'a vendue à pas mal d'équipes déjà en place qui devaient migrer d'outils ou se restructurer pour travailler plus proprement avec moins de perte de temps, etc.
C'est marrant que tu parles de tout ce qui est travail entre les équipes. Tout à l'heure, ouais. On a parlé un peu de management et c'est vrai que toi, quand tu dis travailler entre les équipes, tu penses à quoi?
Bah, déjà, il y a deux grands axes de la formation, peut-être trois. C'est travailler entre designers. C'était un des chapitres. Comment on travaille entre designers? Est-ce qu'on recrée tous la couleur ou est-ce qu'on se partage la couleur? Est-ce qu'on recrée tous le composant ou est-ce qu'on se le partage?
Belle introduction au design system.
Voilà, tranquillement, hop. Et là, petit clin d'œil, je mettais des screenshots de l'article de Audrey Hack, le fameux article sur le design system que j'ai utilisé plein de fois en formation. D'ailleurs, on avait parlé avec Audrey. Elle m'avait même aidé pour ma vidéo sur l'atomic design. Mais bref, j'utilisais ça. La créativité, le design system, tout ça, le petit schéma magnifique. C'était vraiment du pain béni. Donc, essayer de sensibiliser à tout ça et du coup, travailler entre designers, comment on fait, c'est quoi les limites, comment on gère des situations et tout. Travailler avec des UX ou avec des utilisateurs. Donc là, ça partait un proto, comment on fait un proto, comment on nomme ses artboards, comment on fait un test utilisateur, qu'est-ce qu'on livre, comment on itère, faut garder tous les protos avec toutes les dates, enfin, tu vois. Organisation. Bon, à l'époque, c'était une vision. Ça me fait un peu mal au cœur, mais on était des galériens à l'époque, mais c'était une vision, donc il y avait plein de petites astuces et tout.
Figma n'était pas encore là.
Exactement. C'était un peu dur. Et la troisième facette, travailler avec les développeurs. Comment tu livres ton design? Comment tu fais tes planches de découpe? Comment tu livres un beau SVG? Comment tu donnes accès à l'inspecteur? Et du coup, on faisait des petites sensibilisations avec les développeurs. Vous nous changez notre outil, mais nous, on avait Photoshop, on double-cliquait dedans, on veut pas changer. Ah, attendez, venez regarder. Je comprends que vous aimez bien Photoshop et tout, vous double-cliquez pour récupérer. Mais regardez, inspect. Là, il y a même le petit CSS. Oh, ok, pourquoi pas. Ok, on veut bien finalement. C'est un peu ça mon travail, tu vois. C'est-à-dire que j'étais formateur, mais aussi après, souvent, alors je dis moi, excuse-moi, mais on va dire on, parce que j'ai fait la première fois, mais après on était plusieurs, tu vois. Souvent, on était, du coup, on faisait la session de formation une semaine, j'en sais rien. Et après, on venait toutes les deux semaines, une demi-journée dans l'open space des clients. On était assis à une table et les gens, ils venaient. Ouais, tu peux du coup nous aider là. On est en train de setup un composant, on sait pas comment on doit le nommer et tout. Alors, est-ce que c'est un composant global ou qu'est-ce qui est dédié juste au produit? Ok, tu vas mettre product slash, enfin tu vois. Ok, merci. Et bien, toutes les deux semaines, on venait comme ça suivre la bonne, la bonne propagation de notre formation finalement. Et ça, c'était très cool.
C'est intéressant que tu parles du fait de les former, ensuite le fait de les suivre.
C'était bien.
Tu parlais d'Audrey tout à l'heure et que j'ai reçu dans ce podcast et donc où elle était aussi en agence et elle aidait les entreprises à mettre en place des design systems. Et il y avait vraiment toute cette notion de suivi. Et on en revient par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de suivre son travail, de voir comment il évolue, etc. pour l'améliorer.
Ouais. Et nous, on essayait de le vendre. Alors, le vendre, c'est peut-être pas un mot très, très sexy dans cette situation, mais on essayait de leur dire, écoutez, si vous faites la formation de semaine, achetez les 4 demi-journées de suivi. C'est sûr que ça va vous servir, quoi. Et souvent, les clients étaient hyper intéressés parce que, leur crainte, c'est que leur équipe de 10 designers fasse n'importe quoi après, quoi. Donc, non, au contraire, il y avait une vraie problématique. Alors, je pense plus qu'elle ait trop d'actualité aujourd'hui. C'était vraiment un truc de 2017-2018 et beaucoup d'entreprises qui étaient en cette migration. Je pense que maintenant, pas mal d'entreprises ont fait le pas quand tu regardes des trucs. Ouais, on est déjà sur Figma. Ah, ok, tu vois. Mais à l'époque, il y avait vraiment cette crainte de, ok, on est des agences avec un bagage de 10 années de process, faut mettre sur le serveur le PSD avec la date et tout, et on dit, OK, il y a des nouveaux outils, il faut que quelqu'un nous accompagne dessus. Donc ça, c'était très, très cool comme expérience. Et pareil, j'ai appris sur le tas, finalement. J'ai créé la formation, je l'ai faite, je l'ai améliorée, je l'ai refaite, je l'ai améliorée, et voilà. Donc ouais, ça correspond très bien à ma personnalité. Encore une fois, la formation, c'est une des facettes qui représente bien aussi ce que j'aime faire et ce que je fais aujourd'hui, je pense.
Merci pour la transition. puisque ouais, du coup,
aujourd'hui, j'ai le script sous les yeux de toute façon.
fallait pas le dire. aujourd'hui, du coup, tu l'as dit, tu passes vachement de temps sur Twitch, de plus en plus, j'ai l'impression, où tu parles de tout. Tu vas, la semaine dernière, au moment où on enregistre, c'était la semaine dernière où t'as suivi la config, donc la présentation des nouveaux outils de Figma, où des fois tu fais. T'es devenu freelance, on en reparlera aussi après, mais du coup, tu fais télétra-live où tu montres ton travail. Enfin, j'ai l'impression, pour avoir suivi ce que tu faisais pour préparer cette émission, que, en fait, ta passion, c'est la formation, c'est expliquer ton métier, c'est transmettre ce que tu fais. Tu le dis toi-même, tu le fais pas forcément bien ou t'es pas le meilleur dans ce que tu fais, mais ton objectif, c'est de partager le plus possible, de discuter avec les gens. C'est même pas une question, en fait. C'est un constat, ce que je suis en train de dire.
T'as très bien résumé et je veux bien rebondir dessus parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit au début. Quand j'ai continué la chaîne YouTube, quand elle était plus, on va dire, sponsor par mon agence, j'étais pas en mode je veux grinder des vues ou je veux grinder de la YouTube monnaie parce que honnêtement, ça m'en rapporte pas énormément en tout cas. Mais c'était plus en mode j'ai envie de rassembler la communauté, quoi. Et c'était vraiment ce que t'as dit en plus, c'est que moi je dis pas regardez, faut regarder ma chaîne parce que je suis le meilleur, regardez, je suis incroyable, je fais des trucs de fou. Non, au niveau design, je suis standard. Par contre, ce que j'aime bien, c'est parler des trucs qui passionnent avec des gens et des gens avec qui je peux parler tous les jours ou toutes les semaines ou dans un espace de gens qui aiment bien les mêmes choses que moi, ça existe pas, donc je l'ai créé, tu vois. Et donc, chaîne YouTube, je dis, j'aimerais bien, moi, qu'il existe des vidéos où le gars, il critique un site, tu vois. Eh ben, je le fais. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait des lives où les gens, ils donnent leur avis sur la maquette de quelqu'un d'autre. Hop, je le fais. Et je prends toujours cette idée, c'est j'aimerais bien que ça existe. Mmh. Bah, allez, on le fait, quoi. Enfin, tu vois, j'étais pas en mode je le fais parce que je suis meilleur, je le fais parce que j'ai envie que ça existe, tu vois. Ouais. Et du coup, quand il y a des gens qui se lancent et qui me disent, des fois, je reçois des messages, des fois, les gens qui se lancent, ils me disent « Désolé, Bastien, je sais que tu fais déjà ça, mais j'ai envie de faire ça et tout. » Je fais « Mais quoi ? Mais fais-le. Enfin, j'ai pas de copyright. Vas-y, fais ta vidéo, fais ton live. » Genre, moi, je suis vraiment en mode « Mais moi, je suis pas du tout légitime sur ce sujet. J'avais envie de le faire et c'est cool si des gens, ils veulent en parler, quoi. » Désolé, je suis allé dans tous les sens, mais...
Ouais, non, aucun problème. Mais ça se ressent dans ta façon, tu vois, de parler, de présenter les choses. C'est qu'en fait, t'es juste là pour... Parce que tu kiffes et j'ai vu certaines de tes critiques quand tu fais, c'est toujours bienveillant, c'est toujours avec du monde autour. Je trouve ça d'ailleurs extrêmement intéressant parce que ça habitue aussi les gens à voir comment tu fais une design critique. On en parle beaucoup encore sur ce podcast sur justement comment tu te retrouves en entreprise à, entre guillemets, critiquer les designs. Mmh. Et je trouve que la façon de faire, la façon dont tu le présentes permet d'éduquer les gens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de jeunes designers qui te suivent aussi pour comprendre le métier, voir comment ça se passe. Et je trouve ça intéressant montrer un côté beaucoup plus pratico-pratique.
Ouais.
Je crois que je ne sais plus si c'était si c'est toi qui l'avais dit dans un live ou si c'était dans un podcast que j'ai écouté. Tu disais qu'une fois, il y a certains de tes followers qui sont à l'école et qui font des études de design et qui en apprennent beaucoup plus sur tes lives qu'à l'école.
Ouais.
Et, je trouve ça intéressant parce que ça montre un peu la vérité du métier et tout ça. Et je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Pourquoi tu as l'impression qu'il y a... Enfin, pourquoi il y a ce décalage, en fait, entre toi qui fais ton métier de tous les jours, qui s'éclate à faire du stream, et des gens qui te suivent et qui te disent, bah, en fait, moi, j'en apprends plus avec toi en une heure qu'en six mois avec un prof.
Bah, déjà, ouais, c'est rigolo, mais un peu triste quand même, tu vois. Mais ce matin, j'ai eu une notification de YouTube, vous avez un nouveau commentaire sur la vidéo où je parle des couleurs. Vidéo que j'ai faite complètement à l'arrache le lendemain de mon déménagement parce que j'en avais marre de pas faire de vidéo, je l'avais presque pas préparé la vidéo. Et le commentaire, c'est exactement ce que t'as dit ce matin. C'était « Putain, mais j'en ai appris plus dans ta vidéo qu'en une année de cours. » Je fais « Mais comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois. Et du coup, c'est un peu triste. Et comment je l'analyse, ce truc-là ? Je pense que... Déjà, c'est parce que bah je suis pas généreux, j'ai pas le mot, mais tu vois, moi je donne les choses gratuites. Mmh. Je suis dans une philosophie de voilà,
je
donne gratuit et ça me reviendra en positif d'une autre façon, voilà. Donc déjà il y a ça. Donc forcément quand tu reçois un contenu gratuit et que tu compares à une école payante, je sais pas combien d'euros, forcément t'es biaisé. Mmh. Donc ça, première chose. Mon contenu, il survole pas mal de choses quand même. C'est plus une question d'impression parce que c'est bien condensé, c'est moderne, c'est packagé en 10 minutes. Donc je pense que le premier biais c'est ça. Le deuxième truc c'est qu'aussi moi j'ai zéro friction. C'est-à-dire que je veux parler d'un truc, hop, je lance la caméra, j'en parle, je l'envoie. Il y a des erreurs, il y a pas d'erreurs, il y a personne pour juger. Contrairement à une école ou une formation plus classique où t'es prof, tu crées tes supports, tu apprends à être prof, t'es embauché dans une école, t'es là depuis 3 ans, 2 ans, 4 ans, et puis forcément à un moment l'effort que ça demande de mettre à jour tes supports, tes contenus, tes exercices, c'est un enfer. Je veux dire, c'est impossible d'être prof et dans le métier en même temps. Et dans le métier, toutes les semaines, il y a un nouveau truc. Ce qui fait que maintenant, des formats comme Twitter ou Twitch sont beaucoup plus adaptés des fois que YouTube, tellement ça change vite, tu vois. Et alors, j'imagine même pas si moi, j'étais prof, si je devais mettre à jour des exercices et un cours. Mais juste, c'est impossible, en fait. Donc je pense que c'est le deuxième problème aussi de tout ça, c'est qu'aujourd'hui l'accès à l'information avec Internet, elle se fait, comme j'ai dit dans mon premier point, de façon gratuite sur certains supports, et elle se fait de façon instantanée aussi. Et forcément, toute la boucle, on va dire, d'études plus classiques, forcément, elle en prend un coup. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais quand j'entends ça, je me dis, c'est pas la faute de l'école, c'est pas la faute du prof, c'est juste obligé, quoi. Ça va trop vite pour que ton cours il soit aussi à jour qu'une vidéo d'un mec qui réacte à une conférence et qui t'explique tout en 2 secondes, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense que ça dépend des écoles, parce que je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus ancrés dans le métier et qui en ont fait leur spécialité, mais t'en as encore beaucoup qui sont un peu à la traîne ou encore dans l'ancien modèle.
Enfin, mais d'ailleurs, si je peux rajouter un truc pour pas que mon propos soit incomplet, tu le dis, ça dépend des écoles. Évidemment, tous ceux dont l'école est très bien, ils ont pas mis de commentaires, évidemment. Et aussi, comment dire, il y a des écoles qui sont basées sur l'alternance. Mmh. Et moi, quand des étudiants ils me disent « Tu me conseilles quelle école ?», je leur réponds tout le temps « J'en sais rien parce que je suis pas allé à l'école depuis 10 ans et toutes les formations ont changé. Par contre, mon seul conseil, c'est choisir une formation avec de l'alternance parce que le syndrome de avoir l'information en direct quand tu réactes à une vidéo, ça ira plus vite que d'attendre que le cours sorte. C'est exactement la même chose que tu as été à la machine à café avec un mec qui bosse depuis 10 ans et qui te dit « Ah bah ça c'est pomme alt G, ouais je le sais, bah je fais ça tous les jours. Ça ira toujours plus vite que d'attendre ton cours. » Et du coup c'est le même syndrome, c'est-à-dire que l'alternance, tout le monde dit j'ai appris plus dans mon alternance qu'à l'école. Bah c'est le même syndrome de j'ai appris plus dans ta vidéo qu'à l'école en fait.
Ah,
donc puis, c'est sur le terrain en fait, c'est des gens du terrain qui te parlent au final, tu vois.
Puis c'est vachement un métier de pratique aussi, dans le sens
où
tu peux faire des designs dans ta chambre ou en école, mais en fait si tu le confrontes pas au monde réel. Ok, tu vas peut-être en école avoir une note, mais ce qu'on disait encore tout à l'heure, tu designes pour des utilisateurs, et en fait, quand tu ne te confrontes pas à cette réalité-là, ben, tu ne peux pas...
Mais c'est exactement ça. En discutant avec toi, je me dis, mais en fait, c'est la même remarque que quand tu finis ton année, tu dis, ah bah dans mon alternance, quand j'étais à côté du gars, j'ai appris plus qu'avec le prof, quoi. c'est le même syndrome en fait. C'est-à-dire que tu parles avec un pro qui bosse vraiment tous les jours versus un enseignant qui a beaucoup d'étapes avant de t'amener les infos et peut-être aussi des infos qui peuvent périmer parfois. Donc c'est assez difficile d'être prof dans cette condition-là. Donc privilégiez les alternances, les amis. C'est toujours bien.
Yes. J'ai un dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec toi qui est ce qu'on pourrait dire un peu comme de l'alternance parce que tu te gères tout seul maintenant. Tu es devenu freelance il y a très peu de temps. T'as décidé de passer au 4-5e. Et donc, je te le disais tout à l'heure, tu fais des lives de ta façon de travailler, que je recommande aussi parce que ça te permet. Moi, je sais que des fois, je suis tes lives et comme ça, je vois comment tu travailles. Ça me permet aussi de confronter comment moi je travaille. Donc, tu vois, j'ai ta maquette d'un côté, ma maquette de l'autre. Et je suis en train de me dire, ah ouais, lui, il fait ça, moi, je fais comme ça. Ok, on est sur deux sujets différents, mais tu vois, c'est intéressant à suivre. Et je me demandais, du coup, pour ce travail-là, toi, pourquoi tu as décidé de devenir freelance? Et qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Parce que tu le disais tout à l'heure, être en agence, ça te permet de travailler sur des nouveaux projets, ça te permet de changer quand t'en as marre, tu vois un petit peu de tout. Moi, j'ai toujours pris l'habitude de me dire freelance, c'est un petit peu l'agence quand t'es tout seul. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai des clichés, je pense? Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien?
Ok. En fait, je vais répondre plus déjà en refaisant un peu l'historique des étapes qui sont passées dans ma tête et dans mes décisions de carrière à ce moment-là. C'est que déjà, moi, à Tekna, j'étais chez mon client 4 jours par semaine et le 5e jour, je donnais formation et je m'occupais de management et je m'occupais de projets annexes. Et avec, encore une fois, le confinement, il s'est avéré que les TJM, donc c'est le prix que les clients payent les profils, est baissé. Ce qui fait que sur ce système de Bastien, il voudrait être 4 jours chez le client et 1 jour sur de la formation, parce que à la base, c'était sur quoi j'étais bon dans mon agence, tu vois. Bah, ça marchait plus trop, niveau financier. Donc avec ma manager, c'était un peu en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ça va plus, il faut qu'on trouve une solution pour toi, quoi. J'étais là, bah, ouais, j'y suis pour rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'était dans un coin de ma tête, et c'était pas hyper agréable, on va dire. Parce que du coup, je faisais des formations en visio, mais tout en sachant que ce serait pas rentable. Enfin, tu vois, c'était un peu cette ambiance-là. Et ce qui s'est passé, c'est que, du coup, Micode m'a invité sur son émission à Underscore.
Je mettrai le lien dans la description pour les gens qui veulent écouter ou voir ton passage.
Ouais. Ouais, Underscore, c'est en podcast version totale et il y a des petits best-of sur la chaîne Underscore de Micode. Et du coup, c'est très cliché. Du coup, j'y suis allé en voiture. Ceux qui veulent l'histoire aussi, j'ai fait une vidéo qui story time un peu ça, mais c'est très cliché. Il m'a appelé le midi même pour le soir et j'y suis parti direct en voiture. Très, très cinématographique. Et dans la voiture, j'ai eu le temps de penser. Je me suis dit, bon, là, quand même, j'ai pas de temps pour faire ce que je kiffe en ce moment, c'est les lives et les vidéos. Je gagne assez d'argent. Voilà, je vais pas non plus mentir, je gagne assez d'argent. En plus, cette année, j'ai rien dépensé, quoi. Le confinement, c'est un truc de fou. Et je me suis dit, mais en fait, ce que je kiffe, ce serait d'avoir du temps libre pour, au lieu de faire des lives explosés de fatigue à 18h30 le soir, peut-être avoir un jour de libre où je fasse des formats en journée et puis commencer à devenir peut-être, comme tu disais au tout début, youtubeur, streamer plus officiellement. Et j'ai cogité de ça sur la route. Après, j'ai fait l'émission Underscore où il y a eu pas mal de questions autour de ça aussi. Du coup, là, j'étais en mode, ouais, je suis en train de me mind-blown tout seul.
L'alignement des planètes.
Ouais, en plus, bah, quand j'ai fait 2 heures de voiture tout seul, tu sais, t'as le temps de, tu regardes la route, tu fais, et là, t'es dans tes pensées, tu vois, genre, ce genre de moment, tu vois. Et en revenant, je dis, OK, bah, en fait, je veux être 4-5e. Pas pour être freelance à la base, c'était pas mon idée de dire je veux être freelance, tu vois, mais pour avoir du temps. J'appelle mon agence, mais limite le lendemain, tu vois, c'était vraiment en mode, ils me disent, ouais, ok, en vrai, ça peut être une solution, nous, ça nous va, en plus, toi, on voit que t'es passionné par ce que tu fais à côté, on veut te donner la chance de pouvoir le faire et tout machin. Donc évidemment, il n'y a pas de secret, hein, pour ceux qui demandent si vous êtes freelance, enfin, si vous êtes libéré un jour, évidemment, vous ne devez pas voler les clients de votre agence, ça, il n'y a pas de secret, donc c'est pas le but. Et du coup, je me suis mis en freelance aussi pour, dans ma tête, officialiser le truc, tu vois. Mm-hmm. Parce que je me suis dit, OK, j'ai des abonnés, j'ai des followers, j'ai voilà, une reconnaissance dans le métier. Je me suis mis freelance pour un peu apprendre à m'autogérer et un peu apprendre à officiellement être Bastille UI, tu vois. Une entité à part. Et tout ça vient aussi du fait que tous mes amis me disaient depuis des années, deviens freelance, Bastien, t'as les compétences pour, t'auras une meilleure journée, t'auras un meilleur salaire, t'auras des meilleurs projets, tu verras, t'auras tellement de projets, tu pourras choisir et tout. Et moi, je répondais tout le temps depuis des années, ah ouais, non, mais moi, c'est pas pour moi, j'arriverai pas à m'endormir le soir parce que je vais penser à est-ce que j'ai assez gagné pour partir en vacances, est-ce que j'ai vendu assez cher, est-ce que je vais être en galère, enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui, dans ma personnalité, je suis pas anxieux, mais dès qu'il y a un truc comme ça, je vais y penser et j'aime bien avoir l'esprit libre quand à 18h ou 19h, la journée est finie. Comme je suis en agence, je sais que c'est cool, tu vois. Je reviens le lendemain sur le projet. En étant freelance, il y a une genre de course effrénée à l'infini, tu vois. Et même si du coup, je suis freelance pour juste mon vendredi de libre, je le ressens déjà, tu vois. Donc, j'ai bien fait d'y aller doucement. Donc, voilà un peu mon passif avec pourquoi je voulais pas être freelance tout de suite. Et là, je suis freelance, bah, du coup, pour, entre guillemets, officiellement commencer à déclarer ce que je gagne quand je fais des trucs sur YouTube ou officiellement déclarer quand j'ai des dons sur Twitch. Alors, je vous rassure, j'ai pas des sommes increvables. Je suis sûr même que ce serait même pas déclaré par certaines personnes. Mais je veux m'entraîner justement à voir ce que c'est d'être freelance, tu vois. Donc, aujourd'hui, je suis pas freelance pour prendre des projets autres que mon agence. Mais je suis plus freelance pour avoir un statut et faire le pas dans ma tête d'être Bastiwi. Faut surtout pas que je prenne des projets autres parce que mon but de passer au 4/5e, c'est d'avoir du temps libre pour créer du contenu. Et si je remplis mon 4e jour avec du boulot, mon 5e jour, pardon, avec du boulot, ça ne va pas marcher.
Pourtant, c'est ce que tu fais aujourd'hui puisque tu es sur un projet où tu bosses à côté.
Exactement. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que la course effrénée arrive. C'est que nécessairement, le fait d'être un peu connu, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont proposé des projets. Et le projet était cool, et la personne étant elle-même un créateur de contenu sur Internet, c'est Superflame, qui fait aussi, qui est connu pour pas mal d'imitations sur YouTube, mais qui crée des fictions audio, voilà, qui m'a contacté. Je me suis dit, bon, bah, je vais tenter, c'est le moment ou jamais. Ce qui fait que là, je me suis déjà mis en overload direct à avoir du coup trop de travail. Et c'est là où je me suis dit, ok, si j'accepte ce genre de choses, je vais dire aux gens qui veulent bosser avec moi, ok, mais je peux streamer mon travail. Ce qui fait que du coup, je crée du contenu et je travaille en même temps. Alors évidemment, quand je fais ça, je te le dis vite fait, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant, mais je fais une ristourne, je dis voilà le devis, il vaut X, je t'enlève 20% si tu peux le streamer. Alors ça fonctionne pas avec tout le monde, puisque évidemment il y a des projets confidentiels, mais si ça marche pas, je lui dis, bah écoute, moi j'ai pas de temps dans ma semaine, donc tant pis. Voilà. Après, ce qui s'avère être vrai, c'est que moi j'argumente dans le sens où je dis, bah déjà, si je stream, ça peut te faire de la pub, si toi t'as pas de souci de montrer ton truc, et en plus, tu peux avoir du feedback de 300 personnes de 9h à 18h sur le truc. Parce que moi, je suis, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis pas le meilleur, mais je sais écouter aussi. Et coup, un gars qui me dit, bah, ton texte à droite, c'est pas compréhensible. Je fais, ah ouais? Bah ouais. Mais si j'étais tout seul, j'aurais peut-être pas vu, tu vois. Et du coup, quand je le vends comme ça. Je le vends assez bien, je pense. Voilà. Et du coup, c'est mon idée. C'est si jamais je dois faire du freelancing en tant que tel, tu vois, c'est-à-dire vendre un projet, je prendrai que des mini-projets, hein, je te rassure. Ce sera sous ce format-là, tu vois. Parce que je peux pas me dégager plus de temps. Et aujourd'hui, je veux pas me dégager plus de temps. Et je veux garder aussi, comme on le disait, hein, pour faire le parallèle avec les profs. Désolé les profs, hein. je suis contre vous. Je vais parler avec les profs. Je veux continuer à avoir la main dans le cambouis. Je veux pas devenir juste un vulgarisateur. Je veux pas devenir juste un prof. Je veux pas devenir juste un formateur. Je veux pas devenir juste un youtubeur ou un twitcher ou un streamer, je sais pas quoi. Je veux avoir les mains dans le cambouis et juste, voilà, l'idée, c'est de montrer ce que je fais. Et beaucoup de gens, en plus, avaient dit, quand est-ce que tu fais des vidéos sur un vrai projet et tout, machin. J'ai dit, bah, les gars, c'est impossible. Les gens veulent pas. Et là, comme j'ai un peu de chance d'être un petit peu connu, bah, je peux commencer à proposer ce genre de contenu. Et c'est gagnant-gagnant pour tous. Donc, c'est plutôt une chance inouïe. Et ça, je crois que je m'en rends pas encore trop compte, mais c'est vraiment incroyable, je pense, de pouvoir faire ça. Il y a plein de gens qui doivent envier ça, je pense.
Je le confirme.
Merde.
Non, je te dis ça parce que je trouve ça, enfin, encore une fois, je trouve ça intéressant parce que tu vois, t'as beaucoup de, ne serait-ce que t'as des designers qui bossent sur des projets qui pourront jamais montrer sur leur portfolio parce que,
pour
de multiples raisons. Toi, tu as l'opportunité de le montrer en live, d'expliquer ce que tu fais, d'avoir des retours, ce qui est hyper intéressant.
C'est une chance.
Ouais, je pense.
Après, remettre ça en contexte, ça fait depuis 4 ans que je fais des vidéos sans relâche et qui ont trouvé le public, un petit public récemment. Mais c'est pas en mode, allez, si j'avais cette idée avant, je l'aurais fait. Enfin, c'est vraiment tout un alignement de planètes. Covid-19, stream, connaissance, quelqu'un qui a vu mon live, qui m'invite. Enfin, tu vois, ça a pas été fait du jour au lendemain. Ça fait 3 ans que je suis présent, sur 4 ans même sur YouTube, plus d'un an sur Twitch, et je me suis fait repérer par quelqu'un, et après, ça a un peu déclenché des choses, mais tu vois l'idée, quoi.
Ouais, je vois.
Mais petite parenthèse par rapport à, tu dis, j'avoue que ça donne des idées. Dans la vidéo que j'ai faite qui raconte cette histoire qu'on vient d'évoquer rapidement, j'ai reçu pas mal de messages, beaucoup de commentaires et de messages privés. Ah, tu m'as donné envie d'être au 4-5e. Ah, tu m'as donné envie. Ça a l'air vraiment plus important de faire des projets perso. Ah, tu m'as donné envie d'avoir du temps libre pour faire de la musique. Ah, tu m'as donné envie d'avoir du temps libre pour me remettre à ça. Ah, tu m'as donné envie d'avoir du temps libre pour être avec ma famille. Genre, vraiment, c'était incroyable. Dans toutes mes vidéos, d'habitude, je dis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, vous mettez un commentaire. Enfin, tu vois, le truc, un petit call to action de vidéo. Là, j'ai juste rien dit. Je dis, ouais, donc j'ai fait ça et tout. Puis voilà, maintenant je passe au 4-5e. Coupe. Jamais eu autant de commentaires, tu vois, c'est un truc de fou. Les gens, ils se sont trop sentis, enfin, ça a trop parlé aux gens, je crois. Et aussi à cause du contexte, tu vois, où on est un peu tous chez nous et on sait pas trop où investir notre énergie et tout. Et je pense que ça a parlé à pas mal de gens aussi. Et ben, ça m'a beaucoup touché, du coup. Il y a pas mal de commentaires qui m'ont touché, ouais.
Trop cool. C'est bien d'avoir un feedback sur cette vidéo.
Ah ouais, vraiment, ouais.
Bastien, on arrive à la fin de notre discussion et tu le sais, je pose cette question à tous mes invités, qui est de savoir si tu avais des ressources à nous recommander pour les gens qui nous écoutent, que ce soit des livres, des blogs, des podcasts, autres.
Ouais, alors pour ceux qui nous écoutent, je suis très mauvais à cette question. C'est toujours la question qui me fait un peu paniquer et même en live, on me demande souvent des ressources. Et je crois que Micode aussi m'a demandé ça, j'ai un peu paniqué. Et le truc, c'est que déjà, je lis pas trop de livres. Alors, je m'en excuse, mais notamment les livres sur le design, je trouve ça pas ça top, encore une fois, parce que ça périme. Je sais pas comment le dire, mais même syndrome qu'un cours, en fait, c'est qu'un livre, ça va périmer. Après, il y a quelques bons livres qui sont très génériques, je sais pas comment on dit, sur l'UX, qui sont très bons. Mais encore une fois, c'est pas ma spécialité. Et ce que j'aimerais vous recommander, ça va pas être très original vu tout ce que vous avez déjà entendu auparavant, mais c'est d'aller faire un tour sur Twitch. Vraiment, il y a une communauté qui se crée. Alors, elle se crée pas que autour de moi, parce que moi, je vois ma communauté qui se crée autour de moi, mais je vois l'effervescence que ça a. Mais je vois surtout le côté partage et communautaire. Et je pense que si vous êtes designer, développeur, ou je sais pas, dans ton audience, si tu as beaucoup d'autres métiers, mais quelle que soit votre activité, allez faire un tour sur Twitch pour voir quelqu'un qui joue ou pour voir quelqu'un qui travaille ou pour voir je ne sais quoi, il y a de tout. Et intéressez-vous un peu et commencez à parler aussi avec des petites communautés et vous allez vous rendre compte que il y a des choses incroyables qui se passent aussi bien en tant que viewer qu'en tant que streamer. Et dites-moi des nouvelles. Voilà, ce sera ma reco qui fonctionne du coup pour pas mal de métiers finalement. Et notamment en design, moi, je vois de plus en plus de gens qui stream, qui partagent des choses, et même des toutes petites communautés. Moi, j'ai streamé pendant plus d'un an avec 20-30 personnes, quoi. Donc, et c'était quand même super cool. Il y a des gens qui sont mes amis aujourd'hui que j'ai rencontrés comme ça, quoi. Donc, c'est assez incroyable.
Trop chouette. Ouais. Et du coup, dans la description, je mettrai les liens vers ta chaîne Twitch et ta chaîne YouTube pour ceux qui ne connaîtraient pas ton travail.
Merci beaucoup.
Pour aller voir.
Mais voilà, Twitch en général, je sais pas si t'es consommateur de Twitch, toi, Gauthier.
Principalement de tes vidéos, du coup, c'est un peu ça qui m'a mis à Twitch. Après, je regarde deux trois choses par-ci par-là, mais c'est vrai que un peu ce qu'on se disait, tu vois. Par exemple, moi, ce podcast, c'est sur mon temps libre, donc bah du coup, c'est pas durant ma journée de travail, c'est après.
Ouais, bien sûr.
Donc après, si je veux, toujours une question de temps.
Ouais, bien sûr. Après, il y a des gens, beaucoup de gens qui le format télétra live là, il fonctionne. Les gens, ils mettent vraiment en fond.
Ouais, mais...
ils sont avec moi dans l'open. Enfin, moi, je fais toujours la blague, rejoignez l'open space, quoi. on met une petite musique et puis on discute. Il y a des gens vraiment, ils mettent à côté, ils laissent tourner toute la journée, ils travaillent à côté, quoi.
Bah, c'est ce que je disais.
Ouais. Ouais, c'est, et ça, c'est, ça, je, ça, c'est tout neuf, hein, pour moi. J'ai dû en faire 2-3 à l'heure où on enregistre ça. Mais c'est vrai que c'est une expérience, je pensais pas qu'elle marcherait aussi bien et c'est mes formats où il y a le plus de monde, j'ai l'impression, en plus.
Ouais, je pense que ça fait du bien aussi, ça te crée un peu de lien là où il y en avait plus aujourd'hui. Et puis, je pense que, enfin, en tout cas, là, je parle pour moi, mais tu vois quelqu'un travailler, tu vois de nouvelles méthodes. Tu vois ce qui marche, ce qui marche pas. Tu peux te remettre en question assez facilement. Tu vois comment les gens interagissent et ça fait bien.
Mais ça fait carrément fil rouge à toute notre discussion, j'ai l'impression, parce qu'au final, tu vois, on est arrivé de « je suis à Capgemini, je suis à Tecna, on partage, on fait ci, on fait ça, on fait des formations. » Et puis, on termine tout cela cette année en se disant que bah on a manqué d'interaction à la fois sociale, mais aussi professionnelle, parce que il y a pas mal de bonnes idées qui nous arrivent, parce que on galère avec son collègue, on dit « vas-y, tu viens boire un café. » Et putain, on fait « mais putain, elle est trop bien cette idée en discutant d'autres choses. » Et ça, je pense, c'est ce qui manque depuis un an. Et c'est aussi le constat qu'on fait à Tecna, c'est que en tant que manager, on cherche des solutions pour remplacer ça. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, les visios, ça ne fonctionne pas. Parce que les gens n'ont ras le cul de se connecter à des apéros visio, à des trucs visio, machin. C'est juste mal à la tête, quoi. Et c'est vrai que ces moments un peu travail, mais un peu on s'amuse, bah c'est ce qui manque aux gens. Et je pense aussi, c'est pour ça que moi, j'ai envie de faire ça. Et je pense aussi que c'est pour ça que les gens se connectent, parce qu'il y a un peu ce truc du gars dans l'open space qui dit des blagues en travaillant, tu vois, il dit des conneries, et il dit « oh, regarde ce que j'ai fait, oh, ça me donne une idée de truc que t'as fait ». Enfin, et c'est ça qui fait que la créativité et le fait qu'on travaille bien normalement en tant qu'humain, tu vois. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un intérêt autour de ça et autour de Twitch en général, quoi.
Yes. Moi, j'imagine que si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers Twitch dans les commentaires YouTube ou même sur ton Twitter.
Ouais, tout à fait. Twitter, c'est pas mal pour les discussions de texte. Et après, si vous avez des questions plus précises, j'y réponds pas par message privé parce que ça me prendrait trop de temps. Mais je vous invite, comme l'a dit Gauthier, à vous connecter sur un live, à poser votre question et du coup, moi, j'y réponds en live. En fait, c'est comme ça. Je dis toujours, je préfère répondre en live. Ça en fait profiter plus de monde.
Bien sûr.
Voilà, que prendre du temps en message privé. Et j'ai aussi un Discord, je crois, qui est présent sous toutes mes vidéos YouTube.
Je le mettrai aussi en lien dans la description.
Voilà, petit Slack, petit forum d'entraide où je ne me connecte que très peu, mais qui vit tout seul maintenant avec des gens qui s'aident, qui se donnent des conseils et qui recréent un peu voilà tout ce qu'un open space ou un espace de meet-up, de conférence pourrait créer en physique, quoi. Voilà.
Chouette.
Quelle merci métaphore vous. Incroyable.
Ouais. En tout cas, Bastien, merci beaucoup pour ton temps et pour cette discussion. C'était très intéressant.
Ouais, encore merci pour ton invitation. Avec j'ai l'impression d'avoir survolé plein de trucs, c'est passé trop vite.
Ah ouais.
C'était trop cool. Ouais, j'ai envie de te retourner plein de questions, ça me frustre. J'ai envie d'en savoir plus sur toi, moi.
Pour une prochaine fois.
Je t'interviewerai sur Twitch.
Allez. Alors,
et ben, attends, écoute, mais quand il y a des invitations comme ça, moi, je le fais, hein, tu me connais.
Ben, très bien. Écoute, j'ai un micro, j'ai une caméra. Tout va bien.
Je le note, mais ça va être mon 75e projet organisé du mois. Ça va être compliqué.
Oh bah, prends ton temps, ça peut être le mois d'après.
En vrai, je suis chaud.
Très bien.
Si tu écoutes ce podcast, n'hésitez pas à me le rappeler si je ne le fais pas.
Je pense que personne n'oubliera.
Ça serait trop cool.
Merci beaucoup, Bastien, en tout cas. Et puis à très bientôt.
Merci beaucoup.
Salut.
À bientôt. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt !